ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme, le Ilou Neshama de Amram ben Yaakov Zechono Livracha. Avraham ben Yaakov Zechono Livracha. Oui, sujet traité ce soir. Oui.
C'est quoi l'Ursaq ? Qu'est-ce qui se passe après un moment avec. Si jamais, si on va en parler, c'est la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Pourquoi on fait ça ? Qu'est-ce qui se passe avec les Neshama ? Qu'est-ce qui se passe avec le corps ? Qu'est-ce qui.
Ok. Chaque année, à l'anniversaire du décès, la personne est jugée à nouveau pour les conséquences de ses actes. Quand quelqu'un va mourir, il va se faire juger. Il voit toute sa vie. Il paraît que ça commence même quand on est encore sur Terre, en train d'agoniser, il voit toute sa vie. Il peut savoir que quelqu'un va mourir, il voit aussi tout à coup, il parle, ah tonton, ah papa, maman, il voit la famille vient l'accueillir. Des fois, il voit Malach HaMavet, l'ange de la mort, à ses pieds d'habitude. C'est vrai que c'est pas bien d'aller aux pieds de quelqu'un qui agonise, parce que là-bas, il y a l'ange. Et il y a même des fois avec les pieds, par d'ici, par d'ici. Il y a eu des cas comme ça, par d'ici, affreux. Aïe. Vient le moment de la mort. Et une partie d'âme part déjà, l'autre reste encore dans le corps. Elle suit tout ce qui se passe. Elle est là pendant l'enterrement. Elle entend les discours, elle entend les gens qui rigolent derrière. Et on l'enterre. Et quand on l'enterre, viennent quatre anges qui vont faire une opération qui s'appelle Chibout HaKever, très douloureuse. On va séparer l'âme du corps. Plus l'âme aimait le corps avec ses bonnes envies, le chocolat, le lit, les femmes, la plage, le poker, la belote, l'argent, boire, l'alcool, hola mazé. On me propose maintenant, viens chez Hachem, là-bas il y a la Gemara, Bava Kama, Bava Metsia, le Rashba, Tosot, il dit, non, moi je veux ce monde, mais c'est fini, il n'a plus de corps, c'est terminé, non, je veux rester. Alors viennent quatre anges et secouent le corps pour que l'âme s'en dégage, comme quand tu prends une couverture, tu es tar, comme ça pour que la poussière parte, idem. Et plus on était attaché au corps, plus c'est besoin de coups. C'est une des caparottes, une des purgatoires qui est après la mort. Si on est enterré après midi du vendredi et avant minuit du samedi soir, la lumière de Shabbat est tellement grande que l'âme elle est attirée par la lumière de Shabbat sans qu'il y ait besoin de Chibout HaKever. Donc c'est bien d'enterrer à ces moments-là. Mais en aucun cas on attendra, parce que la douleur d'une âme qui n'est pas enterrée est beaucoup plus grande. Être dans un corps sans être enterré, c'est terrible pour l'âme. Donc elle attend avec impatience d'être enterrée. Et des fois, on se dit, on attend encore une heure, comme ça on peut gagner qu'elle sera enterrée. On est vendredi 11h, attendons midi, comme ça on passe déjà après-midi. Après-midi, c'est le midi juif, hein. Chatzot, le moment où le soleil se trouve au sommet de sa course. Donc c'est cela quoi ? Tout ça, c'est archi connu, c'est dans tous nos livres de Torah. Si vous voulez, il y a un traité entier qui parle, ça s'appelle traité Chibout HaKever, d'accord ? Dans un livre qui s'appelle Reshit Chochma, vous avez Portail de la Ira, dedans vous avez traité Gehenam, traité Chibout HaKever, Kaf HaKela, tous les programmes purgatoires d'après. Attention de ne pas tomber malade.
Et si on a des tzitzit, en fait, ils ne se coupent pas les tzitzit, enfin, ou ils sont plus sympathiques ou...
Ceux qui portent ici, il est toujours plus sympa avec lui. un moment juste. Donc, entre. Alors, il ne faut pas faire attendre l'âme, se disant on va maintenant l'enterrer après le midi juif vendredi, pour le faire éviter le Chibout HaKever. Car il y a plus de souffrance à ne pas enterrer qu'à éviter le Chibout HaKever. Et on enterra, si possible, on doit quelqu'un qui est décédé Shabbat, on fera tout pour l'enterrer, encore monter Shabbat, la nuit. Ici à Yerushalayim, il y a une loi qu'on ne laisse pas un corps passer, on ne laisse pas un corps passer la nuit. On enterre la nuit aussi. Que dans les cas spéciaux où la famille doit arriver de l'étranger, etc., alors, ou un grand chacham, on veut que tout le monde ait le temps d'arriver, un grand tzaddik, alors on laisse la nuit le corps. Mais normalement, on enterre au milieu de la nuit, même s'il faut. Même s'il faut au milieu de la nuit, à 1h du matin, on va et on enterre le corps. parce que c'est mieux ainsi. À une question de Samuel.
En rapport avec ce que vous venez de dire, c'est mieux d'attendre la famille et
Oui, bon, combien de temps? Qui la famille? Le cousin éloigné? Non.
Les frères,
frères et sœurs, peut-être, oui, en 24 heures, en habitude, si d'habitude, c'est un jour, on attend d'habitude, plus que ça, non.
Mais elle souffre, là.
Elle souffre, mais bon, des fois, elle souffre plus aussi que la famille ne soit pas là, on prend en considération aussi.
C'est pas que pour la famille, c'est aussi pour le celui qui est...
Le cavote du mort, ouais, des fois aussi, on l'enterre et depuis les trois tondus à 2 heures du matin, c'est pas très gentil. Oui.
Ça se prier pour le... Si on veut prier pour le... Dire qu'on est là, avec la veille de Shabbat et au Shabbat même.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Tu dis à Hachem qu'il ne te fasse pas mourir avant ton heure. Parce que c'est dommage de mourir avant, d'accord? Mais que si déjà, qu'il te donne le mérite de mourir, que tu sois enterré avant ou après Shabbat. Oui, pourquoi pas.
Et puis l'Alvaya, c'est quoi le
L'Alvaya?
Ouais.
Bon, on fait d'abord honneur, c'est honneur aux deux, et aux endeuillés, pour montrer qu'on est là, qu'on les accompagne, et le mort aussi, c'est un fait kavod. L'Alvaya, il y aura des espédimes, une oraison funèbre, on va vanter les qualités du défunt, et ça doit encourager le public à faire tchouva. On a le droit de rajouter un peu sur ses qualités, pas beaucoup. Un peu, t'es gentil, on est très gentil. D'accord? Mais si on rajoute des choses qui sont vraiment fausses, alors dans le ciel, on le punit, le mort. On dit qu'il donne beaucoup de tzedaka, il était radin comme tout. Ah, tu donnes beaucoup de tzedaka, hein, tiens, tard, ah, comme ça, on le fait encore plus dur. Et évidemment, le spéculeur de son funèbre, qui à cause de lui, le pauvre il se fait ratatiner là-haut, lui aussi il reçoit sur sa tête aussi. Et à côté c'est marqué que celui qui est paresseux de faire un espèce sur un sage d'Israël, un chacham tzadik, comme il faut bien, alors il mérite qu'on l'enterre. Dieu nous en protège. Ouais, c'est le espèce, la raison finale. C'est très important. C'est important, les gens doivent faire tchouva à ce moment-là. C'est un moment où les gens sont ouverts. Beaucoup de gens font tchouva durant des deuils, quand ils sont endeuillés, et tu vois quelqu'un, tout coup, il n'est plus là, je ne comprends pas pourquoi la vie, je ne comprends pas, etc. Et puis, tu vois que la vie a une fin. Toi, tu te coupes de l'argent, ta célébrité, ton petit confort, tout coup, tu comprends, il y a une fin. Alors qu'est-ce que je fais ici? La mort est un grand cadeau que je nous ai donné. S'il n'y avait pas de mort, tu vis dans ce monde-là, tu t'éclates, et tu t'éclates, toute ta vie tu t'éclates. Heureusement qu'il y a un petit rappel, il y a une fin, mon cher ami, va dans la bonne voie. Bon, qu'est-ce que je fais? C'est question-réponse, je veux bien. Bon, Anthony, si dans 10 minutes je vais parler au sujet, tu me rappelles qu'on doit arriver à l'année, parce qu'on est qu'à l'enterrement, on voulait arriver un an après. Oui.
On enterre Shabbat ou...
Pardon? Non,
on va voir Shabbat. Et l'âme, elle part pas avec la lumière de Shabbat directement sans qu'on l'enterre?
Il y a des parties d'âme comme ça. La mort, comme j'ai expliqué souvent, n'a pas lieu d'un coup. Comme quand on va naître, on reçoit des parties d'âme de façon progressive. Lors de la fécondation, il y a une première partie d'âme qui arrive. 40 jours après, une autre. À la naissance, encore une autre. Après 7 jours, encore une autre. Après 30 jours, encore une autre. Tout cela correspond à des dates. Après 40 jours, il y a déjà autre chose. Il y a une partie de Neshama qui vient. Il y a des cas extrêmes où on autorise l'avortement. Des cas très, 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 très extrêmes. L'avortement est extrêmement interdit. Mais il y a des cas où on le permet. Mais qu'avant 40 jours, après la fécondation. Après 40 jours après la fécondation, ça devient presque impossible, d'accord? À moins qu'on mette en danger la vie de la femme, de la mère. Mais parce qu'on dit qu'à 40 jours, il y a une partie d'âme qui rentre. La naissance, c'est une autre partie d'âme. La Brit Mila, 7 jours. 30 jours. Et puis il y en a ben, il y a des choses, il y a des degrés. Après chaque année, on reçoit. La mort, ça commence 30 jours avant la mort. 30 jours avant la mort, tu as une partie d'âme, déjà le Tzel qui parle, le Tzamim. J'ai marqué que la nuit de Hoshana Rabba, à minuit, on est jugé. Le Zohar dit, tu peux aller dehors voir, parce qu'il y a on est le 15 du mois juif, il y a la lune donc qui éclaire, et on peut voir l'ombre de la lune. Je ne sais pas ce que c'est des choses mystiques qu'on ne voit pas avec des yeux de chair. Tu peux voir ce qui passera cette année. Tu te vois sans tête, c'est-à-dire que tu finis pas ta vie. Tu finis pas ton année. Tu vois sans bras, c'est quelque chose de proche de ta famille qui part. Le Zohar dit chaque chose qu'on peut voir comme ça. Donc on passe à du Tzel. 30 jours avant la mort, le Tzel, il part. Le Tselem, pour dire pour être plus précis, pas le Tselem. Le Tselem, il part. Racontez l'histoire de Kiadon, la fin du Zohar. La fin du Zohar, la Hadra, Zouta, la Hadra Rabba, est l'histoire suivante. Il y avait un rabbin, je crois qu'il s'appelait Rabbi Yossé. Et un jour, il va voir Rabbi Yehuda, lui dit, Rabbi Yehuda, s'il te plaît, si je quitte ce monde, tu t'occupes de mes enfants comme il faut. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pars comme ça? Ouais, ben, j'ai rêvé cette nuit que j'avais plus mon Tselem. Mon Tselem est parti. Donc je comprends que dans 30 jours, c'est mort, quoi, je vais... Rabbi Yossi dit, bon, ça c'est sérieux, viens, on va aller chez Rabbi Shimon, lui peut s'occuper de ça. Et les deux partent à d'autres dames pour aller chez Rabbi Shimon. Ils arrivent le 30e jour là-bas, maison de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il les voit par la fenêtre, ce sont ces deux élèves, ils voient Rabbi Yossi, ils voient Rabbi Yehuda, et sous Rabbi Yossi, ils voient l'ange de la mort. Il se met à la porte de sa maison, il dit, je conjure tous ceux qui sont habitués de rentrer dans ma maison, qui peuvent rentrer, ceux qui ne sont pas habitués, qui ne rentrent pas. Conjuration de Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne peut pas rentrer. Donc Rabbi Yossi rentre, Rabbi Yehuda rentre, l'ange de la mort bloqué dehors. Il commence à faire les 100 pas. Il dit, ouais, mais dans 10 minutes, c'est le moment, ça. Il faut qu'il sorte le jeune homme, là. Il commence à faire les 100 pas. Alors, Rabbi Shimon, il dit, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai compris. Va te reposer ici, je m'occupe de ça. Rabbi Yossé va se reposer, et Rabbi Shimon se met à prier. Et Rabbi Yossé s'endort. Donc, au milieu de son sommeil, tout coup, Rabbi Yossé éclate de rire, en dormant. Bon, pour finir, Rabbi Yossé se réveille, Rabbi Shimon lui dit, dis-moi, pourquoi t'es arrivé comme ça? Il dit, ben, j'ai vu tes prières qui montaient comme ça, extraordinaires, et moi j'étais déjà arrivé là-haut, j'ai vu mes parents qui m'accueillaient, qui me disaient, voilà, tu vas bientôt venir, voici ta place, on est très content que tu viennes, et tout à coup, il y a un grand tremblement de terre là dans le ciel, tout s'est mis à bouger, la prière de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout à coup, une voix est sortie, elle dit, Rabbi Yossé, tu repars sur terre. Tant que, c'est pas Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak Napacha, il s'appelait. Rabbi Yitzhak Napacha. Tant que Rabbi Shimon Bar Yochai est vivant, tu es vivant aussi. Il est garant de ta vie. Et à ce moment, j'ai vu l'ange de la mort partir comme ça, claquant la porte. Ah, ce Rabbi Shimon, ils empêchent tout le monde de travailler comme il faut. C'est pas possible. Je me plains à la direction. Et là j'ai éclaté de rire comment ta prière a réussi à le faire partir. Et effectivement, Rabbi Yitzhak Napacha est resté vivant jusqu'au jour où Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé. Étant un godin, Rabbi Shimon a dit, allez dire à Rabbi Yitzhak qu'il se prépare, on part. Effectivement, lorsque Rabbi Shimon est décédé, Rabbi Yitzhak Napacha est décédé aussi, et est enterré à l'entrée de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand on rentre là-bas, il y a une première entrée très fine, après une deuxième beaucoup plus grande en face du mikvé. Sur le côté, c'est marqué tombe de Rabbi Yitzhak Napacha. Ça passe à peu près inaperçu, mais si on fait attention, on voit là-bas, une bougie allumée à l'intérieur, c'est la tombe de Rabbi Yitzhak Napacha. Donc ça pour dire que le Tselem, il part 30 jours auparavant. Après, une partie qui part à ce qu'on appelle la mort, et la mort aussi, même au niveau physique aujourd'hui, il y a l'arrêt du cœur, l'arrêt de l'activité cérébrale, puis on attend encore 30 secondes après, il y a certains moments qu'on a, c'est pas clair, c'est quand la mort exactement, là aussi il y a certains niveaux d'âme qui partent. J'ai jamais vu une mort en direct, mais on m'a raconté qu'au bout d'un moment, donc les membres commencent à devenir beaucoup plus froids, et puis on voit que la respiration elle était dans le ventre, après elle vient ici, elle se fait ici, puis à un moment, tu fais comme ça, il respire, il y a un souffle qui part, et tac, carrément l'âme qui sort par la bouche ainsi, et c'est une partie d'âme supplémentaire qui est partie. Il reste une partie d'âme qui est dans le corps. Elle ne partira que lorsqu'on va enterrer le corps. Et cette partie d'âme va rester près du corps. Pendant les 3 premiers jours, elle va aller depuis le corps, dans la tombe, jusqu'à chez la maison. Ça correspond aux 3 jours de pleurs. Pendant le deuil, il y a 7 jours de deuil, 3 jours de pleurs. Après, elle va commencer à monter entre la tombe et en haut. Ça correspond aux 4 jours supplémentaires de deuil sans pleurs. Après, elle monte. Elle monte le 7e jour là, on va, ce 7e jour, c'est bien de faire ce 7e jour précisément, on va lui faire la matseva, on va faire le petit bâtiment sur la tombe. La tombe, c'est rien, c'est de la terre, d'accord, qu'on a recouvert, donc on met un petit bâtiment dessus. Après quoi, 30 jours, 30 jours de deuil, si c'est pas pour les parents, il n'y a que 30 jours de deuil, pour frères, sœurs, enfants, etc. À part les parents, père et mère, où il y aura 12 mois de deuil, tous les autres endeuillés, c'est 30 jours. 30 jours, on ne peut pas se raser, on peut pas se raser. Pas mettre de ne pas se raser, pas écouter de musique, des choses comme ça. Pas de smachot, pas aller à des mariages, c'est 30 jours. 30 jours correspond aussi à une autre notion d'âme. Après 30 jours, encore une autre partie d'âme qui quitte le corps, qui reste jusqu'au 12e mois. 12e mois, toutes les parties partent, à part une dernière qui reste dans un petit os qu'on a ici dans la nuque, qui a 3 noms. Luz, Niskoy, Betuel. Cette petite os, il est nourri que par ce qu'on mange au niveau spirituel, il n'est nourri que ce qu'on mange sous la révite. Le repas qu'on fait samedi soir après Shabbat, pour ça qu'il faut manger, comme hier soir, bien manger le samedi soir, parce que ça nourrit bien cette ose-là, le Betuel Niskoy Ulouz. C'est de lui qu'on va se réveiller à la résurrection des morts. Ceux qui mériteront la résurrection des morts, c'est l'âme qui était dans le paradis, elle revient dans cette partie d'âme qu'on appelle le corps. C'est pas le corps, le corps il est putréfié, il est mort. Cette partie d'âme, elle reste, et c'est là-dedans que l'âme va en quelque sorte s'incarner, elle va rentrer dans ce corps-là, qui est un corps spirituel. La résurrection des morts, on est tous en tant que corps spirituel. Donc après un an, toutes les parties d'âme sont parties maintenant. Elle va où cette partie d'âme ? Ben, dès le premier jour de la mort, elle va se faire juger. Tribunal céleste. Et là, on lui pose 5 questions. Je peux avoir mon Maseret Shabbat, s'il te plaît ?
Ressuscité ?
Non. Non. Ceux qui ne croient pas, par exemple, ils ne sont pas ressuscités. Ceux qui prêtent avec intérêt, ils ne sont pas ressuscités. Il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas ressuscité. C'est à l'éveil qu'on sera ressuscité. À l'éveil.
Même après Mashiach, même
au Lava, ouais.
Entre l'école d'Israël
et Israël. Yacham Khalek, mais pas tout le monde y a droit. Tout le monde l'a, en potentiel, mais pas tout le monde y a droit.
Un gardien qui vous demande votre nom d'abord à l'entrée.
Ça c'est Khibout HaKever. Khibout HaKever, on te demande pour pouvoir libérer ton âme, on te demande ton nom. Alors tu réponds Andreu, Jonathan, Shaltiel, d'accord ? Non, ton vrai nom. Et il semblerait qu'on oublie ce vrai nom. C'est pour ça qu'il est bien de lire un verset à la fin de la prière qui finit par les premières lettres et dernières lettres de notre nom. Et tant que tu ne te rappelles pas, il te secoue comme ça.
Et si je me rappelle tout de suite, c'est bon, ils vont
faire. Normalement, ils te lâchent tout de suite, ouais. Alors.
Ils ont plusieurs prénoms.
Je te dis, c'est même pas le nom par lequel on nous appelle. Je ne sais pas ce que c'est ce nom-là. Je connais mon nom, ça va, toute ma vie, on m'a appelé comme ça. Je sais pas. En plus, on rappelle des rachetés, des lettres du début et fin qui est mon vrai nom, d'accord ? Donc, c'est quoi mon deuxième nom ? Je sais pas. Mais il semblerait qu'on ait contact avec l'âme, on est censé s'en souvenir. 5 questions. Première question. Nasata vanatata be'emuna. Est-ce que dans le business, les affaires, t'étais droit ? Aïe. Mais je vais faire de la vente. La vente, on appelle ça. C'est-à-dire comment mieux rouler son prochain. La magouille, le truc, l'argumentaire. On peut plus gagner sa vie. L'argument que tout le monde dit, qui ne vaut rien. Première question qu'on te pose. Qui donne l'argent ? Le directeur ou le big boss là-haut ? Tu crois avec ton argumentaire tu vas faire mieux ? En plus, c'est de l'argent qui n'a pas de bracha. L'argent, il part en cacahuète après, dans n'importe quoi, tu vois bien.
On nous vole justement, on va reprendre notre lieu, ce qu'on nous a volé.
Ce qu'on nous vole à nous, ouais. Mais mieux vaut pardonner, sinon on doit revenir en Gilgoul pour recevoir ça. Des gens qui vont en Gilgoul pour recevoir ce qu'on leur doit. Si Dieu est bon, ça revient à notre descendance. Quelqu'un qui nous a volé, t'as pas pardonné, ou tu reviens maintenant en Gilgoul pour le reprendre, ou ça reviendra à ta descendance. Deuxième question. Kavata etim la Torah, est-ce que tu as fixé des heures fixes d'études de Torah ? Aïe. Troisième question.
Ah, mais là, c'est d'herbe d'études, c'est...
Fixe. Alors, il y a Tosfot, il est dans... Il y a un Tosfot dans... Sanhedrin, page 8, qui pose la question. Je préfère plutôt vous dire ça. Pose la question, parce qu'il y a un autre Gemara qui dit que c'est la première question qu'on pose.
Sanhedrin.
Alors, il répond ça. Alors, il dit, ça dépend qui. Il y a quelqu'un maintenant qui étudie pas toute la journée et c'est son heure fixe de Torah, quelqu'un qui étudie toute la journée qui a aussi son heure fixe, qui doit avoir son heure fixe de Torah. Voilà. Alors c'est marqué que le jugement d'une personne commence par divrei Torah. Comme ça dit Agmar dans Sanhedrin. Tout ça pour la question. Pourtant c'est marqué ici dans Maseret Shabbat que première question demande si ça fait le business de façon honnête. Et seulement après on le pose la deuxième question, est-ce qu'on fixe des heures pour l'étude de Torah ? Répond le Tosfot. Ce qu'on a dit ici, que la deuxième question, c'est ce que tu as fixé des heures, c'est quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée. Il faut au moins qu'il fixe des moments qui soient des moments, ça c'est un moment qui ne bouge pas. Et là, on parle de quelqu'un qui n'est pas occupé toute la journée à étudier la Torah, il a son business, il a ses affaires, alors on lui pose aussi maintenant, on lui pose aussi la question, est-ce qu'il a fait son business avec honnêteté, mais la première question qu'on lui posera, c'est quand même sur... Divrei Torah.
Celui qui parle en travail à côté, alors on lui demandera lui d'abord
Torah. Quatrième question. On était première, deuxième. Troisième. à Sakta Bria Verviya, est-ce que tu as fait des enfants? La première mitzvah qu'ils ont ordonnée dans la Torah, amener un garçon et une fille qui sont vivants lorsqu'on va mourir. Et eux-mêmes aussi doivent amener, si un d'eux est mort, il faut que eux aient amené aussi, si par exemple, Rasejom, ton garçon, il est mort, alors que lui ait amené un autre garçon par rapport à ta fille. Ça, il faut faire des enfants. Et les gens oublient cette mitzvah. C'est Rabbi Haim Vital, dans son livre Sharei Kedusha, il parle des mitzvot, il parle des légères, après moyennes, après les plus graves. Dans les plus graves, il met Priya Verviya. Comme quoi, c'est un truc super grave.
De nos jours.
Hein?
Plus de nos jours.
Quoi, plus de nos jours? Quoi, plus de nos jours?
Il
y a une mitzvah, je dois faire ça dès l'âge de 18 ans. Je dois me marier pour faire des enfants. Ramobad, il autorise. Nous, on ne se marie pas maintenant les 9 jours qu'il y a entre Rosh Chodeshav et Tisha B'Av. Et bien, quelqu'un qui n'a pas fait Priya Verviya, il peut se fiancer pendant cette période où il y a des coulottes spéciales pour gagner 9 jours. 9 jours gagner.
Parce qu'on a la peur que la fiancée se fiance avec un
gamin. Non, c'est ça pour le fiançaille, mais pour le mariage, on est mekel dans cette période-là. Ou peut-être les jours avant, je ne sais plus exactement, mais on est mekel, c'est un truc très important, Priya Verviya.
On n'a pas le droit de limiter, de dire oui, je m'arrête à 2, à 3.
Alors, il y a 2 interdits. Il faut amener un garçon ou une fille. Ça, c'est la mitzvah de la Torah. Après, mitzvah des Rabbanan, amener d'autres enfants aussi. C'est notre mitzvah, lo tohu bara, la chevet yetzara. Dieu n'a pas créé le monde, tohu, pour qu'il soit inhabité, la chevet pour qu'il soit la chevet demeurée, établie, il l'a créé. Donc, mitzvah des Rabbanan. Nafkamina, prendre la pilule. Quand on a déjà un enfant, un garçon, une fille, c'est plus facile d'autoriser la pilule pendant quelques mois pour qu'elle se repose un peu la femme, plutôt que s'il n'y a pas encore eu un garçon et une fille.
S'il n'a pas fait ça, il revient à Gilgul.
Certainement. Enfin, je ne suis pas le boss qui connaissait Gilgul qui, quoi, comment, mais c'est important. Non. Tzipital et Yeshua. Quatrième question. Est-ce que tu as attendu la Géoula? On est tranquille, tu penses?
Vous êtes tranquille.
Mais attends, est-ce que j'attends la Géoula pour la Géoula de HM ou pour être pépère? Pour aller étudier la Torah tranquillement, fini, tout ça? Pourquoi j'attends la Géoula? Plus de problème d'argent, plus de problème de maladie, plus de problème de rien du tout. Pourquoi attend la Géoula? Pour maintenant la Géoula de HM, le Kiddush HM, ou on attend maintenant pour enfin plus de tsarot? Bon, quatrième question. Cinquième et dernière question. Pilpalta bachorma et vanta d'avoir betordava. Est-ce que tu as été pilpalta, le pilpoul? Tu as fait des. Pilpoul. Un matin au matin en français. On est matin au matin en français. Pour parler, pilpoul. Pour parler d'argumentaire au niveau de. Dans la sagesse, la Torah. Question-réponse, toute une dialectique au niveau de la sagesse. Est-ce que tu as compris des choses, déduit des choses à partir d'autres choses, en sagesse, en Torah aussi, déduction, hein?
Méditer, penser, réfléchir.
Oui, sur la Torah. Tu apprends un truc et t'en déduis un deuxième.
Là, il y a des questions, mais pas à nous, quand même. La vérité, ça peut être à nous.
Non, la vérité, on ne te demande pas d'avoir des enfants de force. Tu dois faire ce que tu dois faire. Maintenant, Hachem, il envoie, mais c'est pas toi qui as bloqué.
Et après la cinquième question, la chokma, c'est pas moi qui décide la
chokma. Non, on va pas nous demander ça, je pile pas le tab chokma. Est-ce que tu as fait du pile poule? T'étais un chiot, t'as pris Rachid, Tosot, Rajba, et après.
Je suis celui qui sait pas questionner.
Hein?
Si je suis celui qui sait pas
questionner. Bah, ils vont t'enseigner. Comment questionner? Donc, on s'est jugé. Et après, on nous passe en film toute notre vie, mais en super rapide. Et là, le jugement. Viennent d'abord les anges du bien qui disent toutes les missions que tu as fait. Ah oui, il a raison à ça, et ça, et ça, et ça. Bon, bah, Hachem, ça passe. Non, monsieur, tout à coup vient l'accusation. Tan, ta, 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 ta. Vient l'accusation. Oui, bah, ouais. Comment t'as osé? Tu savais que c'était interdit. Tu as dit à Hachem, non. Non. Mon envie passe avant toi. Avant Hachem, que nous les anges, on tremble devant Hachem. T'es devant Hachem. Et t'as tes amis qui te poussaient à faire des bêtises, ils sont plus là, personne. T'es tout seul là, devant des anges énormes, saints, parfaits. Et Hachem, tu te rends compte combien t'étais nul. Nul, plein de saleté. Et tu regrettes. Bon, alors, pour finir, qu'est-ce qui se passe? Oui ou non? Moitié-moitié. Alors, alors c'est bloqué. Mais je comprends pas. Si tu avais fait tchouva sur deux, trois péchés, tu passais. Alors c'est trop tard? Trop tard. Fini. Qui demande à revenir? Qui dit que tu as réussi? Peut-être encore pire. Le Sahara revient, hein. Le même Sahara, aussi paresseux, aussi les filles, aussi tout ce que tu veux, en pire.
On était fous pour demander de redescendre.
T'avais pas le choix. Tu voulais, t'étais prêt. Ouais. On dit comme ça, on dit un habit qui est sale, on l'envoie à Marbessa, au pressing. On peut le laver, ça c'est l'enfer. Mais quand il est complètement coupé en petits morceaux, on va à l'usine.
C'est-à-dire qu'on est tous coupés en petits morceaux là.
Eh oui, mon cher ami.
On ne dit pas que les hiboux, justement, des animaux. Comme...
Mais Baruch HaShem, là, t'es venu à l'Eshiva, t'as fait tchouva, ça répare tout, c'est énorme, c'est ça que c'est dur. Comprenez que les épreuves que vous avez maintenant, elles réparent des fois 30-50 gilgoulim. C'est énorme. C'est un grand cadeau qu'Hachem fait. Je pense, grâce au maître de la Shoah, comme je l'ai déjà dit souvent, Hachem, il nous permet aujourd'hui de faire choix relativement facilement. Aujourd'hui, c'est facile. Il suffit de voir, c'est vrai. Ouais, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut.
Ça ne veut pas dire que tu avais bien tailleur, mais tu n'es pas Yeshua Tchoussef aussi. Hein. En fait, Yeshua Tchoussef n'est pas forcément réalisé ce que Hachem attendait de nous.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est pas la même chose. En fait, Yeshua Tchoussef n'est pas
forcément
réalisé ce que Hachem attendait
de nous. C'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a une aide. On voit qu'il y a une aide de Tchouva. C'est un grand cadeau d'Hachem. Je dis pas que le tour est joué, tu viens terminer. C'est clair, il faut bosser. Hein. Ça manque pas de. Mais c'est une petite boîte aujourd'hui. Petite boîte.
Mais est-ce que c'est parce que vous pourrez révéler à Roland Barthes, c'est pour ça?
Pas compris.
Est-ce que c'est parce que vous pourrez révéler à Roland Barthes, c'est pour ça qu'on vient ici?
On peut pas révéler, on peut pas révéler, j'ai pas compris.
On peut rien faire.
On peut rien faire. La descendance peut faire pour nous. La descendance. C'est la question d'Anthony un peu. Rafes Raïm, chaque jour, il allait faire son Khashbon Nefesh. Il s'imaginait, comme ça, que je racontais. Rafes Raïm, tu es déjà vieux, il dit, tu crois que tu vas vivre éternellement, un beau jour, tu seras malade. Bon, c'est vrai, les médecins disent, bon, c'est pas, la situation n'est pas simple, mais dans Khashbon, on s'en sortira, et ça va pas mieux. Alors, en ce moment, tu tombes malade, encore pire, en commençant à s'inquiéter, on dit, non, tout ira bien, mais les gens savent déjà que c'est cuit, les médecins ont dit, il perd quelques jours, et voilà, Rafes Raïm, Rabbi Meir, comment il s'appelait, Israël Meir, à Cohen. On apprend tout à coup, voilà, les voitures passent, dit les vaillés, fondit sordekadoy, reb, Israël meira kohen, tesevishangar leham, nuches, d'accord? Et viennent des centaines de milliers, et tu te fais juger, et tu arrives là-haut. Baruch Hashem, t'as des mitzvot, Mishnah Brura, Chafetz Chaim, mais combien de averot pour ton âme que t'avais, t'aurais dû être beaucoup plus haut, et t'arrives moitié-moitié. Et t'implores Hashem, mais faire tchouva, dit trop tard, t'as rien à faire. Il dit non, je suis encore vivant. Là maintenant, je suis encore vivant. Ça sera plus tard, là, je suis vivant. Alors maintenant, je fais tchouva. Et il fondait en pleurs, il faisait tchouva sur les péchés de la journée. Ah, ça, c'est bon.
Mais on en demande plus au tzadik.
Ouais.
Ouais. On va le juger plus fort.
Ouais.
Plus grave.
Ouais. Vraiment, pas. Sivav Nis'ara Me'ot, c'est marqué. Autour de lui, c'est un jeu de mots. Nis'ara vient de mon cheveu. La loi, elle est comme un cheveu. Alors tu vas dire, alors, restons bêtes. Non, parce qu'on te donne un potentiel. Un tzadik, il a reçu un potentiel qui lui permet de devenir tzadik. Il a une grande âme. Il sera jugé en fonction de cette grande âme. Et si ça restait crétin, ça arrive, une grande âme qui reste crétin, eh ben, il aura un jugement beaucoup plus difficile que s'il avait été positif. Donc, après, qu'est-ce qui se passe? Alors, plusieurs options. Ou retour case départ, Gilgoul, réincarnation sur Terre. Ou programme purgatoire, il y en a plusieurs. Kafakela, l'âme qui erre dans ce monde-là, poursuivie par ses péchés. Les différents enfers qu'il y a, enfer chaud, enfer froid. Et après tout ça, des fois, il y a les deux. Partie d'enfer après une partie réincarnation.
Poursuivre par ses péchés, c'est poursuivre par ses péchés, mais si c'est ses péchés, alors la Nishma, elle ressent un plaisir.
Elle est poursuivie par les péchés.
Non, mais elle a aimé ses péchés tous les jours.
Non, 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 non. Elle a mis les péchés, elle a créé, par exemple, c'est la Batala, on a créé des démons, d'accord ? Les démons te poursuivent. Tu m'as créé, maintenant, occupe-toi de moi. C'est moi qui vais m'occuper de toi. Alors, Hachem, après, on arrive au paradis. Il y a un paradis en bas, un paradis en haut. Donc, d'abord, une certaine partie, paradis en bas, après, on peut monter dans le paradis d'en haut. Donc, c'est marqué que les Réchaïm, les plus grands Réchaïm, ils vont 12 mois en enfer, pas plus. C'est pour cela que, quand on a un parent qui est décédé, le Alechem, alors on dira le Kaddish pendant 12 mois, pas plus. Il ne faut pas en faire un rachat, parce que si tu fais Kaddish pendant 12 mois, comme si tu le considères comme ton père ou ta mère comme un rachat, on s'arrête à la fin du 11e mois pendant une semaine. Il y a plusieurs coutumes. Il y en a qui s'arrêtent un peu plus, un mois, il y en a qui s'arrêtent un peu moins, il y en a qui s'arrêtent un peu moins. Bon, il y a toutes sortes de coutumes. L'essentiel, c'est de ne pas faire les 12 mois de suite pour dire mon père n'était pas un rachat. On s'arrête une semaine, après on recommence quand même, parce que le Kaddish est un des moyens qui peut permettre. Aux enfants de faire sortir leurs parents de situations difficiles qu'il y a dans l'âme bas. Il y a un midrash de Rabbi Akiva qui est dans le désert, puis il a vu un monsieur tout noir, la tête tout noire, qui courait avec une grosse pierre dans le dos. Et il courait comme ça, il a dit arrête-toi, je suis Rabbi Akiva, je t'ordonne de t'arrêter, ça, qu'est-ce que t'as? Il dit je suis un mort, pourquoi tu comme je suis poursuivi par mes péchés, d'accord, je suis condamné à courir avec ces grosses pierres. Et t'as personne sur terre qui t'a pas laissé un enfant? Oui, j'ai un enfant, il habite où? Il donne l'adresse, etc. Bon. Il est revenu sur terre, Rabbi Akiva, il a trouvé cet enfant-là, qui était un grand analphabète, et il a enseigné la Torah, il a enseigné à dire Birkat Hamazon, à faire le Kaddish. Et après, le monsieur noir est venu en rêve chez Rabbi Akiva, merci Rabbi Akiva, depuis que mon fils il dit Kaddish, on m'a sorti de l'enfer, je suis rentré au paradis. Donc c'est certain que le Kaddish que font les enfants pour les parents ont un grand, grand mérite. Si possible, ce sera les enfants. S'il n'y a pas d'enfant, la descendance, c'est pas la descendance, on peut louer quelqu'un qui dira Kaddish. Ça a aussi de la valeur. Toute mitzvah qu'on fera aura de la valeur. Qu'on fait tout ce qu'on peut faire comme mitzvah, l'ilou nishama, pour l'élévation de l'âme du défunt, a de la valeur. Parce que on ne peut plus avancer. Mais on peut faire des mitzvah pour le faire avancer là-haut. C'est ce qu'on appelle élévation de l'âme. On fait monter l'âme. Alors, M. Krakowicz, oui.
Oui, quand vous avez un parent qui refuse pour X raison de se faire enterrer comme un juif, et un autre parent qui tient absolument à se faire incinérer.
Oui, ça ne change rien. Ça change rien.
Est-ce qu'il y a une mitzvah d'essayer de...
Bien sûr, une mitzvah les empêche, bien sûr. Ici en Israël, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Israël, on ne mettra pas des gens qui profanent le Shabbat à côté des gens qui sont chômeurs Shabbat. Et il y a aussi une chalka spéciale, un territoire spécial pour les tzadikim. Parce que c'est très désagréable pour un tzadik d'être près d'un rachat. C'est très désagréable pour un rachat d'être près d'un tzadik. Il se rend compte le mal qu'il fait au tzadik, il en a très honte. D'accord ? Donc on met des gens ensemble, du même cru, quoi. Ça, c'est maintenant quelqu'un incinéré, très bien, mais néanmoins, l'âme, elle reste. C'est pas différent des juifs qui ont été incinérés dans la Shoah et qui, certainement, ont pas. Ah, voilà, Maba, ça change rien.
Et comment il faut s'y prendre pour essayer de convaincre
Essayer de convaincre.
On ne s'incinère pas, on est en terre commune, non?
Pardon?
Même s'il veut qu'on s'incinère, on ne s'incinère pas, on est en terre commune.
Mais en France, il veut s'incinérer. Et la famille, à moitié assimilée, dit moi, je fais ce que ma mère voulait. Moi, j'ai une tante qui était à Getzed dans sa jeunesse. D'accord? Getzed, c'est le séminaire numéro 1, encore une de mes tantes. Une autre, encore. Qui était à Getzed, d'accord, c'est le séminaire top orthodoxe, il n'y avait pas mieux. Elle est partie en cacahuète, elle devait être partie en Inde. C'est à l'époque, dans les années 60-70, comme c'était la mode, aller en Inde, il y avait les Beatles, elles étaient dans le trip comme ça, aller en Inde, elle était dans un ashram, elle a eu un gourou, il s'appelait Babaji. Il y avait même un groupe, comment il s'appelait ce groupe-là qui chantait une chanson de Babaji, comment ça s'appelait? Babaji. Babaji. Et puis un jour Babaji est mort, elle a dit il va ressusciter comme tous les gourous, d'accord, qui sont morts ressuscitent. Un beau jour il y avait même un cheveu de Babaji qui lui tombait comme ça du ciel, c'était un signe. Un peu ma boule. Elle a un fils, un pauvre cousin, moi Steven qui s'appelle. Bah, complètement assimilé le pauvre, assimilé. Et quand elle est décédée, elle a eu un cancer, elle a tout fait. Elle a tout fait, miskena, pauvre fille. Bon. Bref, elle est morte d'un cancer et elle a décidé de se faire incinérer et que les cendres seraient éparpillées dans la mer. Tout à fait, elle a fait un forcing terrible sur le gosse pour non, le corps est encore là. Elle a dit non, moi je vais faire le désir de ma mère et puis elle répondait au téléphone et voilà, ils l'ont incinéré. On peut toujours faire Kaddish, on peut toujours faire des Mitzvot, les Louis Neshmata.
Mais elle ne peut pas ressusciter.
Si, j'imagine que, comme je dis à Laurent, tous les morts qui sont morts dans la Shoah, 6 millions de juifs qui sont morts, quelqu'un qui est mort dans un incendie brûlé, tu as des super grands tzadikim que vous avez à la fin de la Gemara, vous avez le Mordechi. Lui et toute sa femme et ses 5 enfants, étaient brûlés au Moyen-Âge, d'accord ? Mort de Kiddush Hashem. Alors quoi ? Parce qu'il est brûlé, il ne va pas ressusciter, Chas Shalom. Non, ça n'a pas de problème. On parle d'une charge d'âme, c'est une charge d'âme qui se pose sur ce petit os. S'il n'y a pas l'os, la charge d'âme elle reste quand même. Elle reste quelque part et la résurrection des morts, il va se lever, il n'y a aucun doute là-dessus.
Alors pourquoi on ne s'est pas inséré puisque ça prend vraiment le faire ?
Parce que c'est marqué, il y a un verset qui a dit tu mangeras du pain sur de ton front et tu reviendras à la terre. Car de la poussière tu es venu, et à la poussière tu reviendras. Car poussière tu es, à la poussière tu reviendras. Car farata ou la farata chouf. Donc là on apprend la mitzvah d'enterrer. On va dire la poussière. C'est un manque de kavod au corps. On doit du kavod au corps. Parce que le corps, il a été l'enveloppe de la neshama. Neshama est hyper sainte, c'est une partie divine. On doit du kavod au corps. On n'a pas le droit. Enfin, quoi que ce soit, on doit se comporter avec beaucoup de kavod, on le laisse même pas seul. Il y a Tilim autour, d'accord ? Pourquoi tout ça ? Pour pas kavod du corps. Alors juste pour finir, après les 12 mois, qu'est-ce qui se passe ? Donc, chaque année maintenant, il y a encore un jugement. Tout ça, j'ai commencé pour commencer à dire qu'il y avait un jugement après la mort, d'accord ? Mais en fait, le jugement, il n'est pas fini, parce que chaque année, après, il y aura des fruits, conséquences de tes actes positifs ou négatifs. T'as un type, il est venu à l'Yeshiva, tu es dans ta chambre, puis tout d'un coup, tu as fait un rot. Ou pire, une flatulence, d'accord, bruyante. Il dit, mais je suis pas... C'est quoi ici ? C'est la jungle. Vous êtes une bande de tarés, il prend sa valise et il part. Il va où ? Il va à Elat. D'accord, on met un peu de soleil maintenant avec ce temps-là. Il va à Elat, il rencontre là-bas des filles, etc. Et après, la vie continue, d'accord ? Et lui et ses enfants, tout ça à cause de ta flatulence, mon cher ami. Après ta mort, on va te juger sur la flatulence, on va te montrer. Bah lui, pour maintenant, il a déjà 10 petits-enfants goy, l'année prochaine, il en a déjà 11, et après 12, et après 13, chaque année, boum. Maintenant, il est le contraire. Le type vient dans la chambre, te fait un grand sourire, viens, c'est beau la Torah, tu l'as pris comme ça, tu l'as enseigné, etc. Grâce à toi, il voulait quitter la Yeshiva, tu l'as convaincu de rester à la Yeshiva, fait le Tchouva, après il a eu 10, 11, 12 chaque année, tu as des dividendes, d'accord ? Donc on va rejuger la personne chaque année pour cela. Donc c'est le moment où, vu qu'il est jugé, ses enfants font le même jour, ou jeûnent, ou font des mitzvot supplémentaires, font des brachot, un cours de Torah. Il n'y a rien qui fasse plus de ilou neshama, d'élévation d'âme, que l'étude de Torah. Baruch Adonai.